C'est demain qu'aura lieu le deuxième tour des élections municipales. Hier, 6 des 8 communes où le scrutin s'est joué au premier tour ont élu le nouveau maire. 20 ans de réclusion criminelle pour l'homme accusé de viol commis sous la menace d'une arme. Les jurés ont suivi les réquisitions du ministère public. Lundi prochain, place à une nouvelle affaire de meurtre. Près de 100 personnes réunies à Lifou hier pour une mobilisation anti-blocage des aérodromes des îles. Plusieurs rendez-vous sont prévus la semaine prochaine entre le collectif citoyen et les collectivités. À l'étranger, 21e jour de conflit au Moyen-Orient. La guerre de l'énergie se poursuit. Téhéran poursuit sa stratégie de pression maximale pour déstabiliser le marché de l'énergie. Le doublé des tricolores en biathlon, c'est du sport. Après Loujon Monod chez les féminines, c'est Éric Perrault qui s'est adjugé le grand globe de cristal de la Coupe du Monde. Et puis le football, la 27e journée du championnat de France de Ligue 1. Lens reçoit Angers à Félix Bollaert. Les Sons et Or qui vont tenter ce matin de reprendre provisoirement la tête du championnat. Bonjour, excellent week-end et soyez les bienvenus dans ce journal J-1, donc avant le vote pour le deuxième tour des élections municipales. La campagne du visuel s'est achevée hier soir à minuit, il n'est donc plus possible de parler des enjeux du second tour. En attendant, 6 des 8 communes où le scrutin s'est joué au premier tour la semaine dernière ont élu leur maire hier, élections qui se sont déroulées à l'occasion du premier conseil municipal renouvelé à l'issue du premier tour. 3 d'entre eux se sont réunis à 8h hier matin, Michael Genesky.
C'est le cas à Lifou et c'est Pierre Roisé qui est le nouveau maire de la commune. Sa liste était arrivée en tête lors du premier tour avec 57,68% des suffrages. Elle dispose donc de 24 sièges sur les 29 du conseil municipal. La liste de Pascal Toupaïssi a obtenu 3 sièges et celle de René Caoudjé, 2 sièges. Seul candidat en lice, Pierre Roisé a obtenu donc 28 voix et il y a eu un vote blanc. Le nouveau maire de Lifou entend bien travailler avec tout le monde.
Même si on a la majorité, on a été mal de dire qu'on va dépasser le nombre et puis nous trouver au niveau des idées, etc., la qualité du travail à fournir ensemble. Donc, savoir écouter les minorités aussi. Je crois que c'est comme ça, on va travailler ensemble. La campagne, elle est terminée. Puis maintenant, on va essayer de travailler ensemble pour regarder les souffrances de l'île et puis porter ensemble quelque chose. On voulait déjà me voir pour faire calme, qui n'est pas de notre compétence. Mais nous sommes à la structure de proximité. J'avais dit comme ça là qu'on doit avoir un peu de retenue et puis attendre les résultats de Marais, Ouvert et puis de l'île des Pins pour qu'on puisse aussi voir de quelle manière on sort de cette situation qui perturbe les habitants des îles.
À Touau, le nouveau maire est Donald Souekir de l'Union Calédonienne. Au premier tour, sa liste avait devancé celle du maire sortant, Uni, Alphonse Poignine, et elle avait obtenu 15 sièges et la liste Uni, 4. Donald Souekir a été désigné maire à l'unanimité.
La passation entre les conseillers s'est très bien passée. Ce que je vois faire de mon avion, c'est qu'il y a du travail à faire. Il faut tenir les 6 ans, trouver des solutions, malgré qu'on a très peu de finances dans les communes, par rapport à vos dotations, qui a été réduite. Donc, mais c'est pas pour autant qu'on va rester les bras croisés, on va essayer de trouver des solutions. Le plan d'attaque, c'est déjà faire les routes. Avant de faire tout ça, il faut que je fasse un état des lieux dans l'équipe technique, ici l'administratif. Et après, vu les routes, les conditions des routes dans les tribus, réparer les routes et l'eau.
Direction Belep, où Albert Waoulo de l'UC retrouve le siège de maire qu'il avait déjà occupé entre 2008 et 2014. Sa liste Belep pour la réconciliation avait quasiment atteint la majorité absolue au premier tour, avec 49,1% des suffrages devant la liste unie d'Ignacia Teuniwen. Hier, Albert Waoulo a recueilli 9 voix. Il y a eu 6 bulletins blancs, mais le conseil s'est bien passé, nous a dit le maire élu.
Oh, tranquille. Donc avec le maire sortant, bon... Culturellement, c'est mon papa, et puis voilà. Bon, il y a eu des petits entretiens entre nous, comme ça, c'était d'habitude. Après, voilà, c'est dans le travail au quotidien, parce que c'est sûr qu'on travaille ensemble, mais on n'a pas le choix. On n'a pas vraiment le choix. Je l'ai dit, répété plusieurs fois, on n'a pas le choix, on doit renoncer. C'est la colonne vertébrale de toutes les décisions qu'on doit prendre. Faire la relation donc avec les gens qui siègent au conseil municipal, surtout avec la population générale et aussi les autorités coutumières.
On notera qu'Albert Waoulo a reçu la voix de Yann Moilou, candidat sur une liste sans étiquette.
Et ce sont ensuite les conseils municipaux de Yenghien et de Yaté qui se sont réunis pour désigner leur maire.
À Yaté, c'est Louis Oumou qui est le nouveau maire. Sa liste UC avait obtenu la majorité absolue dès le premier tour avec 59,76% des suffrages, ce qui lui a assuré 16 des 19 sièges dans le nouveau conseil. Il était le seul candidat à briguer le poste de maire. Hier matin, il a recueilli 17 voix. Il y a eu 2 votes blancs.
Aujourd'hui encore, on est dans la continuité du travail qui a été posé avec le 15 mars, mais aujourd'hui, on arrive à l'élection de nuit. C'est satisfait, et puis une grande première aussi. En première, on a toujours suivi nos parcours politiques de nos partis respectifs. Et à un moment donné, nos structures de base ont fait le choix de nous porter Aujourd'hui, pour être candidat à la mairie, cette candidature vient se confirmer avec l'élection de maire aujourd'hui.
Cette élection pourrait être invalidée. En effet, le conseil municipal de Yaté a pris fin à l'élection du maire, mais le code des communes précise que la nomination des adjoints doit se faire le même jour, ce qui n'a pas été le cas à Yaté hier matin. Le haut commissariat se réserve le droit de saisir la justice administrative. Affaire à suivre. À Yengen, c'est une femme qui dirigera la commune pendant les 7 ans à venir, avec 15 des 19 sièges dans le nouveau conseil municipal. Mireille Tchibaou a été élue sans surprise. On notera toutefois qu'elle n'a pas fait le plein de ses voix lors du vote, puisqu'un élu de sa liste s'est abstenu, ainsi que les 4 membres du conseil qui siègent dans l'opposition. Mais Mireille Tchibaou est satisfaite de son élection.
Très contente, surtout très contente pour mon équipe. On est une équipe de beaucoup de jeunes, donc c'est une satisfaction aussi qu'on soit arrivé là, quoi. En fait, on est le prolongement de l'équipe sortante, là. Donc, les premiers temps, on va regarder les choses, où est-ce qu'ils en sont, les différents programmes lancés ou pas. Regarder un peu les finances et puis, dans un premier temps, on va d'abord lancer la VP pour le poste de secrétaire général. Déjà s'occuper de ça, puis ensuite réorganiser tout le travail en interne, l'organisation des services, des équipes, pour voir comment on va diriger le travail par rapport à notre programme.
Voilà pour la réaction de Mireille Tchibaou, nouveau maire de Yengen.
La dernière commune à élire son maire hier est la commune de Farino. Une élection qui s'est déroulée dans un climat un peu tendu, Mickaël.
C'est en effet Jean-Christophe Niotou qui est le nouveau maire de la commune. Mais il n'est pas issu de la liste majoritaire, celle de Lutte et Barbou. La liste de Lutte et Barbou dispose de 5 sièges dans le nouveau conseil municipal. Mais les 4 élus de la liste de Jean-Christophe Niotou ont fait alliance avec les 3 élus de la liste de Sandrine Cabar, ce qui lui a assuré une majorité de 8 élus sur les 14 qui composent le nouveau conseil. Jean-Christophe Niotou se défend de toute manipulation.
Le scrutin de dimanche dernier n'a pas défini une majorité claire au sein du conseil municipal. Donc il a fallu faire des discussions, des alliances et regarder les programmes qui étaient les plus concordants. Et nous avons donc décidé de travailler avec la liste de Sandrine Cabar, unie pour Farino, ce qui m'a permis donc d'être élue maire et Madame Cabar première adjointe. J'ai entendu sur différents médias et réseaux sociaux des personnes de Farino parler de démocratie, etc. Pour nous, la démocratie s'est exprimée aujourd'hui au sein du conseil municipal, puisque nous avons réussi à constituer une majorité. Nous n'avons pas de second tour ici sur les petites communes de moins de 1000 habitants. Donc finalement, ce conseil municipal, c'est exactement comment ça se passe dans les grandes communes. Les listes fusionnent, discutent, tractent et finissent par se présenter donc alliés ou de manière unitaire au second tour. C'est ce que nous avons fait au sein de ce conseil municipal.
Cette élection laisse un goût amer aux membres de la liste de Lutte et Barbou, a expliqué son seconde liste, Christian Roche.
Forcément déçu, mais enfin on s'y attendait, on le savait très bien. Hein. Le soir même des élections du 15, là, ils avaient déjà, avec le maire sortant, négocié ce petit stratagème. Par contre, si vous voulez, il y a quand même 72% des électeurs de Farino qui ont été grugés. Il y a 72% des électeurs de Farino qui ont voté pour le changement. Or, c'est pas le cas, puisque le maire, il a quelque part sacrifié ses adjoints pour les donner à Cabar. Et donc, du coup, on retrouve l'ancienne équipe, l'équipe sortante. On est vraiment déçus et on peut pas parler de magouille. Il y en a qui disent qu'il n'y a qu'un tour, il faut 2 tours dans les petites communes, mais le jeu des alliances, si vous voulez, on respecte pas la démocratie, quoi. C'est ça, en fait, ce qui nous déçoit.
C'est donc Jean-Christophe Niotou qui préside, rappelons-le, la Chambre d'agriculture et de la pêche, qui est le nouveau maire de Farino.
Les 2 communes dans lesquelles le scrutin s'est joué au premier tour doivent encore désigner leur maire. Ce sera ce matin à 9h pour la commune de Moindou et demain matin à 9h toujours pour celle de Saraméa. Et puis hier soir, le club politique de Radio Rythme Bleu était consacré au décryptage des élections municipales, club qui ne sera pas rediffusé ce matin en raison, je vous le disais au début de ce journal, de la clôture de la campagne audiovisuelle, mais il est disponible en audio sur le site internet de Radio Rythme Bleu.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier, 85% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils savent déjà pour qui ils voteront pour le second tour des élections municipales demain. Ils sont 15% à ne pas encore avoir fait leur choix. Rendez-vous désormais lundi pour une nouvelle question du jour. Dans l'actualité de ce samedi matin également, cette mobilisation citoyenne, c'était hier à Lifou pour manifester contre les blocages des aérodromes des îles Loyauté et de l'île des Pins. Cela fait 20 jours maintenant, depuis le 2 mars, que les avions d'Erkel sont cloués au sol. Près de 100 personnes étaient réunies devant la mairie de Houé, à la demande notamment du collectif citoyen Nedjeou. Antoine Sinoué est l'un des membres de ce collectif et il annonce plusieurs rendez-vous la semaine prochaine.
On a des rencontres encore à faire la semaine prochaine avec les institutions de la mairie, après peut-être avec le collectif des bloqueurs. Il y a beaucoup de propositions de vouloir les rencontrer parce que pour l'instant, tout le monde campe sur ses positions. Mais nous, on peut peut-être proposer des solutions pour avancer. Il y a des actions qu'on peut mener sur Nouméa en direction des institutions, du Sénat coutumier. Mais pour l'instant, c'est toujours sur des... On n'a rien enclenché encore pour le moment. La semaine prochaine, ça pourrait être la semaine finale du dernier repère pour nous, parce que si on ne trouve pas la réponse la semaine prochaine, ça peut être trop tard pour Erkel.
Et je rappelle qu'Erkelédonie avait annoncé avoir assez de trésorerie pour tenir jusqu'au début du mois d'avril. En début de semaine, 50% de son personnel avait été mis en chômage partiel. Dans les airs encore, un avion d'une compagnie australienne a été contraint hier après-midi de faire escale en Nouvelle-Calédonie en cause les mauvaises conditions météo durant le trajet. Plus de 200 passagers ont été concernés pour ce vol qui devait se rendre à Fidji. Actualité judiciaire, 20 ans de réclusion criminelle pour l'homme accusé de viol commis sous la menace d'une arme. Le 30 mai 2023, après avoir repéré sa victime à la sortie d'un magasin au Vallon d'Or, l'accusé l'avait suivi à son domicile pour repérer les lieux. Il était revenu dans le courant de la nuit et avait violé sa victime sous la menace d'un couteau. Les jurés ont suivi hier les réquisitions du ministère public. Lundi prochain, place à une nouvelle affaire de meurtre aux assises de Nouvelle-Calédonie. La Chambre territoriale des comptes présentait hier son rapport d'activité pour l'année 2025. L'activité de la Chambre aura été soutenue avec la publication notamment de 13 rapports, dont ceux concernant la bibliothèque Bernheim, la province des Îles, la commune de Marais ou encore ceux concernant les frais de déplacement des élus de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ou celui sur les casinos de Nouméa. Le délai moyen de l'instruction de ces dossiers aura été de 9,2 mois en 2025 contre 11,2 mois en 2024. En termes d'effectifs, la Chambre emploie 15 personnes et son budget de fonctionnement aura été en 2025 de 29,3 millions de francs. C'est un week-end culturel qui débute avec notamment L'Art au Château qui est de retour en 2026 après des éditions réussies en 2025. Un événement encore et toujours au Château Hagen qui promet un samedi poétique avec plusieurs ateliers, expositions et spectacles. Alexis Duchenne-Deras est chargé d'action culturelle à la province sud.
Un samedi sous le signe de la poésie puisque le spectacle proposé est celui de la compagnie L'Eau Salée. S'appelle Correspondance. Donc, c'est un spectacle chorégraphique très poétique qui célèbre l'amitié, l'échange, la magie. En amont, donc, il y a un atelier Lego avec Brick for Kids sur la thématique également de l'imaginaire. Le public aura également l'occasion de découvrir l'exposition de la colère de Philippe Dessette et Xavier Bertrand. Donc on espère voir le public nombreux.
Et là, au château, c'est ce soir au château Hagen de 16h30 à 20h. L'entrée est libre et gratuite. À Nouméa, toujours, le comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie organise ce matin une journée portes ouvertes. C'est sur la piste de BMX. Vous pourrez découvrir cette discipline en plein essor depuis les Jeux Olympiques de Paris. Du fun et de l'adrénaline pour les petits et les grands, explique le coach Brian Pariesi.
Oui, voilà, découvrir le vélo, ça crée vraiment des liens d'équipe, de cohésion. Et bien sûr, après, tout ce qui est à côté, le côté adrénaline, de la vitesse, les sensations de hauteur, de saut. C'est de la découverte, de l'initiation. C'est aux grands comme aux petits, donc... aux enfants qui sont sur des draisiennes à partir de 3 ans et demi, jusqu'aux papas qui ont la quarantaine, la cinquantaine, de pouvoir venir s'essayer au BMX Race. Il y a aussi pour les mamans, il y a aussi pour les filles. Bien sûr, c'est ouvert à tous.
Et la journée portes ouvertes de la piste de BMX de Tinas, c'est donc ce matin de 8h30 à 11h30. Mickaël Juneski, vous avez d'autres rendez-vous à nous proposer pour ce week-end?
Oui, pour les amoureux du 7e art, les cinémas du territoire participent au printemps du cinéma. À compter de demain jusqu'à mardi prochain, les places sont à 600 francs au Ciné City et à l'Origine Cinéma. Thio célèbre aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Sur le site de Nefasia, des groupes d'échange sont organisés le matin et des ateliers sportifs et culturels l'après-midi. Sortie nature cette fois avec le CIE qui organise dès 14h30 une découverte du platier Ricaudi. Pas besoin de masque ni de tuba. Les bénévoles du centre d'initiation à l'environnement vous font découvrir à marée basse les organismes qui peuplent l'écosystème. Attention, il faut prévoir une participation financière et s'inscrire au préalable en envoyant son nom et le nombre de participants au 81 52 08. Le paiement via Click and Move est possible. À Farino cette fois, la fête du jardin se déroulera demain sur la place de la mairie de 7h à midi. Et puis c'est la fin ce samedi de la Nouméa Poker Series 2026, le main event au casino de Nouméa qui débutera à midi et qui pourrait durer jusque tard dans la soirée.
Il est 7h16, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, toute l'actualité en métropole et dans le monde.
Envie de prendre l'air et de passer une matinée agréable en pleine nature? Rendez-vous à Farino pour la fête du jardin ce dimanche 22 de 7h à midi. Venez découvrir et vous faire plaisir avec une grande variété de plantes pour embellir votre jardin, des plants de légumes et aromates pour votre potager, des produits du terroir et saveurs locales et des produits vivriers frais. Café et restauration sur place pour partager un moment convivial. Une matinée nature, gourmande et chaleureuse à ne pas manquer. Venez nombreux en famille ou entre amis ce dimanche à Farino.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atto SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et venons-en à l'actualité internationale qui est dominée évidemment par la guerre au Moyen-Orient, 21e jour du conflit, et les Iraniens partout dans le monde qui célèbrent leur nouvel an, le nouvel an perse, Nowruz, qui est la fête la plus populaire du calendrier. Elle marque le retour du printemps, le renouveau, dans une atmosphère évidemment très sombre cette année. Caroline Baudry pour Europe 1.
Pour la première fois, Essan, iranien qui vit à Paris, ne rejoindra pas ses proches de la diaspora autour des tables traditionnellement garnies. Ses parents vivent dans le sud de l'Iran, tout proche d'une base militaire frappée régulièrement. Leurs vitres sont brisées, ils ont déménagé et n'ont pas non plus le cœur à la fête.
Ils essayent de minimiser quand même leur sortie de la maison et dans cette situation-là, d'aller acheter des choses pour quelque chose juste cérémonial et qui n'est pas essentiel. Je pense qu'ils ont dit qu'on n'avait pas le moral pour le fêter.
Difficile pour Pedram, réfugié politique depuis 3 ans, de contacter sa famille en Iran à cause des coupures d'Internet. Lui célébrera Nowruz, le cœur lourd.
Je suis touriste avec beaucoup de personnes cette année, tout par le régime. Mais l'autre côté, nous sommes heureux parce que nous savons que bientôt le régime est en train de tomber.
Il raconte espérer que le prochain nouvel an iranien se déroulera dans un pays libéré des mollahs.
Caroline Baudry du service international d'Europe 1. Dans le Golfe, la guerre de l'énergie se poursuit. Évidemment, une raffinerie du Koweït est en flammes après de nouvelles frappes iraniennes. Plusieurs drones ont également été interceptés en Arabie Saoudite. Téhéran qui poursuit donc sa stratégie de pression maximale pour déstabiliser le marché de l'énergie. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Parce que chacune de ces frappes a des conséquences directes sur le marché. Si le cours du pétrole est légèrement retombé aujourd'hui de 2%, celui du gaz est toujours en hausse, plus 35%. En Europe, une pression sur laquelle mise beaucoup Téhéran, explique le spécialiste des questions énergétiques Thierry Brosse.
L'objectif des Iraniens, c'est de faire monter le prix du pétrole et de créer une récession énergétique et économique. Pour le moment, ils y arrivent pas trop mal, malheureusement.
Les conséquences de ces attaques pourraient être durables. Après les frappes sur son champ gazier de Ras Laffan, le Qatar annonce aujourd'hui que sa capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié est réduite de 17% et il faudra du temps pour remettre le site en état complet de fonctionnement. Quant à la réouverture du détroit d'Ormuz, point de passage stratégique pour les navires pétroliers et gaziers, il reste pour l'instant bloqué malgré les intenses pressions américaines. Donald Trump envisagerait même, selon le média américain Axios, une prise de contrôle ou un blocage de l'île de Karg. C'est par elle que transite plus de 90% du pétrole exporté par l'Iran. Façon donc pour Washington de contraindre Téhéran à rouvrir le détroit.
Wilfried de Villers du service économie d'Europe 1. Venons-en à l'actualité en métropole avec ces menaces contre un professeur. Ça s'est passé dans un collège de Fézin, c'est tout près de Lyon. Le père d'un élève de 6e convoqué pour être informé du mauvais comportement de son enfant en cours a menacé des professeurs en évoquant l'assassinat de Samuel Paty. Les professeurs qui se sont mis en grève, Jean-Luc Boujon.
Des professeurs qui ont même manifesté et déployé des banderoles devant leur établissement, le collège Frédéric Mistral. Des professeurs choqués par le ton et surtout les mots employés par ce père d'élèves, raconte Isabelle, professeure d'art plastique.
Le ton a monté, ça a dégénéré jusqu'à ce que le parent dise clairement « c'est comme ça qu'on a des Samuel Paty ». Tout le monde était un peu sous le choc et c'est vrai qu'on s'est vite mobilisé pour dire « non, on ne peut pas laisser passer, il y a trop de choses graves qui se rajoutent à celle-là, c'est la goutte de trop ». C'est compliqué quand même pour le collègue, il n'était pas parmi nous ce matin, parce que c'est trop difficile et il y a des collègues aussi qui étaient énormément touchés par ces faits.
Le professeur de PS menacé a porté plainte et les faits ont été signalés au procureur de la République. Un type de comportement qui a tendance à se développer, explique Isabelle, sans compter la violence de plus en plus grande de certains élèves au sein même de l'établissement situé pas très loin du quartier des Minguettes à Vénissieux.
Ce n'est pas la première fois que les parents sont agressifs envers nous. Ça fait remonter l'insécurité qu'on a au travail et régulièrement les élèves se bousculent. C'est un pétard qui pète en cours. Des professeurs qui sont insultés, des bagarres. C'est en fait de la violence qui est complètement banalisée.
Une violence propagée donc aussi par les parents. On apprend ce soir que le père de famille a été interpellé afin qu'il s'explique sur son comportement menaçant.
Jean-Luc Boujon, le correspondant permanent d'Europe 1 à Lyon. Dans le scandale des agressions sexuelles dans le périscolaire parisien, 3 hommes ont été interpellés et présentés à la justice ces 2 dernières semaines. Ils sont soupçonnés d'abus sexuels sur des enfants, parmi eux 2 animateurs de 2 écoles situées dans les 15e et 20e arrondissements de la capitale. Le 3e est le mari d'une institutrice d'une école du 10e arrondissement. 9 enfants victimes sont concernés. Au chapitre économie à présent, cette bonne nouvelle dans le Pas-de-Calais, le fleuron de la verrerie, l'entreprise Arc est sauvée. La seule offre de reprise, celle de Timothée Durand, petit-fils du fondateur historique de la verrerie, a été validé par le tribunal de commerce de Lille. Le plan prévoit tout de même la suppression de près de 700 postes sur les 3500. Grégory Leblon est le délégué syndical Sud Arc.
Ça reste une bonne nouvelle, tout en étant une mauvaise nouvelle pour les 700 personnes qui vont nous quitter. Mais à côté de ça, c'est un soulagement quand même. C'est un moindre mal. La verrerie va pouvoir continuer. Monsieur Durand va pouvoir venir mettre en place son projet et essayer de rendre cette usine pérenne. C'est ce qui est le plus important. C'est un défi compliqué, mais on a confiance et c'est la dernière chance de toute façon. Donc on n'a pas le choix que de s'accrocher à ça. Et si Arc s'arrête, c'est pas 3500 emplois qui s'arrêtent, je pense. C'est tout ce qui rayonne autour aussi. Donc c'était pas possible, c'était juste impossible.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. Il est 7h24, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, nous parlons sport et météo.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
RRB, élections municipales 2026. Dimanche 22 mars, suivez le second tour des élections municipales 2026 sur Radio Rythme Bleu.
11h, 16h, les points de participation. Dès 18h30, les résultats bureau par bureau, commune par commune.
Avec aussi les réactions, les analyses et la participation de notre consultant Ismet Kurtovic.
Une soirée spéciale à suivre également en Facebook Live et sur rrb.nc.
Les municipales 2026, à vivre sur RRB pour être les premiers et les mieux informés.
rêvez d'une salle de bain moderne, DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Allez, venons-en à l'actualité sportive avec tout d'abord le sacre des Français en biathlon. Éric Perrault et Loujean Monod ont décroché les grands globes de cristal en Coupe du Monde, Mickaël Juneski.
Le doublé masculin et féminin obtenu en Norvège sur les pistes d'Oslo à l'issue des épreuves sprint. Éric Perrault, qui était en tête du classement général, s'est donc contenté de terminer troisième derrière le Norvégien Sturla Lægreid et un autre tricolore, Emilien Jacquelin. Pour Éric Perrault, à 24 ans, c'est la concrétisation d'un rêve.
Je suis sur mon nuage et je profite... tellement de tous ces moments-là. Ouais. En fait, le gros globe, c'est d'être bon de novembre à fin mars, c'est-à-dire d'être bon sur 35 courses, d'être régulier à chaque fois. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre une trouée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'être moins bon sur une course, on ne peut pas se permettre d'être moins bon pendant 5 minutes sur une saison entière. Ça demande beaucoup de présence sur 4 mois d'affilée, non-stop tous les jours. Donc voilà, c'est ça que ça demande et c'est d'autant plus de fierté quand on y parvient.
Chez les féminines, Loujean Monod s'était officiellement assuré la première place du classement général de la Coupe du Monde hier en terminant 6e du sprint. La France est la 4e nation à réussir le doublé masculin et féminin en Coupe du Monde après la Norvège en 2021, l'Allemagne en 2007 et l'URSS en 1991. Notez qu'il ne reste plus que 4 épreuves à disputer ce week-end pour conclure la saison 2026.
Allez, on passe au football, Mickaël. 27e journée de Ligue 1 et Lens qui va retenter de passer devant le Paris Saint-Germain en tête du classement.
Oui, nouvelle opportunité pour les Lensois de redevenir provisoirement leader du classement, à relativiser toutefois, hein, puisque déjà le week-end dernier, quand les 100 et or avaient l'occasion de passer devant le PSG, ils s'étaient inclinés à Lorient et depuis, Paris n'a pas joué, puisque le duel du club de la capitale contre Nantes a été reporté. Les Parisiens comptent donc un match en moins. Quoi qu'il en soit, les Lensois n'ont pour l'heure qu'un seul point de retard sur Paris. Ils affrontent Angers en ce moment même. On approche de la mi-temps et les Lensois ont déjà assuré l'essentiel. Il mène 3-0. Les premières réalisations signées notamment Thauvin et Edouard. Pour le moment, donc, Lens passe provisoirement en tête du championnat de France.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Le rugby, le championnat de France de Top 14 qui reprend ses droits après le tournoi Destination.
Exactement, retour à la compétition élite des clubs avec la 19e journée. Dès ce soir, le 3e du Top 14, Montpellier, qui ira défier Clermont le 4e. Dans la foulée, le multiplex, 4 rencontres en simultané, Racing 92, Castres Olympique, Toulon, Stade Français, Montauban, Aviron Bayonnais et Perpignan, Lyon. Demain matin, le Stade Rochelais recevra la section paloise. Et enfin, en clôture, lundi matin, un autre choc entre l'Union Bordeaux-Bègles, 5e, et le leader, le Stade Toulousain.
Du tennis, le Masters 1000 de Miami, c'est en Floride.
Oui, le deuxième tour, un Français sur les cours ce matin. Adrien Manarino qui fait face en ce moment même à l'Américain Tommy Paul. Ce sera suivi du match d'Arthur Fils contre un autre Américain, Darwin Blanc, qui a bénéficié d'une wild card. Dans la matinée, encore un Français engagé, Moïse Kouamé, qui sera opposé au Tchèque Jerry Leica.
On passe au sport mécanique, deuxième Grand Prix de la saison de MotoGP. Ça se passe au Brésil.
Oui, la première séance d'essai libre a vu l'Espagnol Pedro Acosta sur KTM réaliser le meilleur chrono en pneus pluie dans des conditions dégradées. Johan Zarco, le Français sur Honda, s'est classé 15e. Fabio Quartararo, l'autre tricolore au guidon de sa Yamaha, a fini 22e. Deuxième séance d'essai libre en cours ce matin. Puis la sprint race et les qualifs prévus demain matin. Le Grand Prix est programmé lundi. Départ à 5h, heure de Nouméa.
Et quelques mots de natation. C'est parti pour le Giant Open de Paris avec Maxime Grousset qui reste au-dessus du lot.
Maxime Grousset qui a remporté sans problème la finale du 50 mètres papillon messieurs sur un temps de 22 secondes 84 centièmes. Puis la finale du 100 mètres nage libre sur un chrono de 48 secondes et 2 centièmes. Et toujours dans l'actualité de la natation, on signalera que le record du monde du 50 mètres nage libre est tombé. L'Australien Cameron McEvoy s'est imposé sur un meeting en Chine en 20 secondes 88 centièmes, soit 3 petits centièmes de mieux seulement que le Brésilien César Cielo. C'était en 2009.
Et quelques mots de sport en Calédonie à présent. Très peu de rendez-vous à signaler, si ce n'est la troisième journée ce matin de la Foot Golf League Fairtale. C'est au golf de Dimbéa, discipline hybride entre, vous l'aurez compris, le football et le golf, matinée de découverte en double ou en solo sur un parcours de 18 trous. Et puis du paddle à suivre aujourd'hui après les hommes. La semaine dernière, place aux dames, l'Olympique de Nouméa organise un P100 et un P250, deux tournois qui réunissent les meilleures joueuses calédoniennes. On signalera également que la Ligue au Wentoro accueille le championnat territorial hommes 45 ans et plus jusqu'à demain dimanche. On termine avec la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce matin, Ismaël. Le sentiment que c'est coup-ci, coup-ça, un peu de soleil, un peu de nuage.
Un très bon sentiment, puisqu'on ouvre avec une vigilance jaune. Forte pluie orage pour un risque d'averse orageuse sur le pays, hormis sur Bélep et les communes entre Koumac et Poya incluses. Ce matin, les nuages élevés se font parfois nombreux. Sur l'ouest, le temps est plutôt sec. Des loyautés à l'extrême sud, des averses circulent localement fortes et parfois même orageuses. Ailleurs, en revanche, la matinée est ponctuée d'averses généralement plus faible. Le vent de secteur est souffle de 5 à 10 nœuds et en fin de matinée sur le sud-ouest, il peut dépasser 10 nœuds de secteur sud-est. Voilà pour la météo.
Eh bien, merci Lionel. Beaucoup, Ismaël. Il est 7h30, c'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Sera disponible évidemment d'ici quelques instants. Réécoute le site internet, c'est le www.rrb.nc. Moi, je vous retrouve avec grand plaisir à 8h pour d'autres infos. À tout à l'heure. Bon week-end sur RRB.